Chapitre 204. Rivaux politiques. D'Artagnan avait promis à M. de Baisemeaux d'être de retour au dessert. D'Artagnan tint parole. On en était aux vins fins et aux liqueurs, dont la cave du gouverneur avait la réputation d'être admirablement garnie, lorsque les éperons du capitaine des mousquetaires retentirent dans le corridor et que lui-même parut sur le seuil. Athos et Aramis avaient joué serré. Aussi, aucun des deux n'avait pénétré l'autre. On avait soupé, causé beaucoup de la Bastille, du dernier voyage de Fontainebleau, de la future fête que M. Fouquet devait donner à Vaux. Les généralités avaient été prodiguées et nul, hormis Baisemeaux, n'avait effleuré les choses particulières. D'Artagnan tomba au milieu de la conversation, encore pâle et ému de sa conversation avec le roi. Baisemeaux s'empressa d'approcher une chaise. D'Artagnan accepta un verre plein et le laissa vide. Athos et Aramis remarquèrent tous deux cette émotion de D'Artagnan. Quant à Baisemeaux, il ne vit rien que le capitaine des mousquetaires de Sa Majesté, auquel il se hâta de faire fête. Approcher le roi, c'était avoir tout droit aux égards de M. de Baisemeaux. Seulement, quoiqu'Aramis eût pénétré cette émotion, il n'en pouvait deviner la cause. Athos seul croyait l'avoir pénétrée. Pour lui, le retour de D'Artagnan, et surtout le bouleversement de l'homme impassible, signifiait « Je viens de demander au roi quelque chose que le roi m'a refusé. » Bien convaincu qu'il était dans le vrai, Athos sourit, se leva de table et fit un signe à D'Artagnan, comme pour lui rappeler qu'ils avaient autre chose à faire que de souper ensemble. D'Artagnan comprit et répondit par un autre signe. Aramis et Baisemeaux, voyant ce dialogue muet, interrogeaient du regard. Athos crut que c'était à lui de donner l'explication de ce qui se passait. « La vérité, mes amis, dit le comte de la Fère avec un sourire, c'est que vous, Aramis, vous venez de souper avec un criminel d'État, et vous, monsieur de Baisemeaux, avec votre prisonnier. » Baisemeaux poussa une exclamation de surprise et presque de joie. Ce cher monsieur de Baisemeaux avait l'amour-propre de sa forteresse. À part le profit, plus il y avait de prisonniers, plus il était heureux. Plus ses prisonniers étaient grands, plus il était fier. Quant à Aramis, prenant une figure de circonstance, « Oh, cher Athos, dit-il, pardonnez-moi, mais je me doutais presque de ce qui arrive. Quelque incartade de Raoul ou de la Vallière, n'est-ce pas ?»« Hélas !» fit Baisemeaux. « Et, continua Aramis, vous, en grand seigneur que vous êtes, oubliant qu'il n'y a plus que des courtisans, vous avez été trouver le roi et vous lui avez dit son fait. Vous avez deviné, mon ami. » De sorte, dit Baisemeaux, tremblant d'avoir soupé si familièrement avec un homme tombé dans la disgrâce de Sa Majesté, « De sorte, monsieur le comte ?»« De sorte, mon cher gouverneur, dit Athos, que mon ami monsieur D'Artagnan va vous communiquer ce papier qui passe par l'ouverture de son buffle et qui n'est autre, certainement, que mon ordre d'écrou. » Baisemeaux tendit la main avec sa souplesse d'habitude. D'Artagnan tira, en effet, deux papiers de sa poitrine et en présenta un au gouverneur. Baisemeaux déplia le papier et lut à demi-voix, tout en regardant Athos par-dessus le papier, en s'interrompant. « Ordre de détenir dans mon château de la Bastille, très bien, dans mon château de la Bastille, monsieur le comte de la Fère. Oh, monsieur, que c'est pour moi un douloureux honneur de vous posséder. Vous aurez un patient prisonnier, monsieur, dit Athos de sa voix suave et calme. Et un prisonnier qui ne restera pas un mois chez vous, mon cher gouverneur, dit Aramis, tandis que Baisemeaux, l'ordre à la main, transcrivait sur son registre d'écrou la volonté royale. Pas même un jour, ou plutôt pas même une nuit, dit D'Artagnan, en exhibant le second ordre du roi. Car maintenant, cher monsieur de Baisemeaux, il vous faudra transcrire aussi cet ordre de mettre immédiatement le comte en liberté. Ah, fit Aramis, c'est de la besogne que vous m'épargnez, D'Artagnan. et il serra d'une façon significative la main du mousquetaire, en même temps que celle d'Athos. « Eh, quoi ? » dit ce dernier avec étonnement. « Le roi me donne la liberté ?»« Lisez, cher ami, » repartit d'Artagnan. Athos prit l'ordre et lut. « C'est vrai, » dit-il. « En seriez-vous fâché ? » demanda d'Artagnan. « Oh non, au contraire, je ne veux pas de mal au roi, et le plus grand mal qu'on puisse souhaiter au roi, c'est qu'il commette une injustice. Mais vous avez eu du mal, n'est-ce pas ? Oh, avouez-le, mon ami !»« Moi, pas du tout, » fit en riant le mousquetaire. « Le roi fait tout ce que je veux. » Aramis regarda d'Artagnan et vit bien qu'il mentait. Mais Baisemeaux ne regarda rien que d'Artagnan, tant il était saisi d'une admiration profonde pour cet homme qui faisait faire au roi tout ce qu'il voulait. « Et le roi exile Athos ?» demanda Aramis. « Non, pas précisément. Le roi ne s'est pas même expliqué là-dessus, » reprit d'Artagnan. « Mais je crois que le comte n'a rien de mieux à faire, à moins qu'il ne tienne à remercier le roi. » « Non, en vérité, » répondit en souriant Athos. « Eh bien, je crois que le comte n'a rien de mieux à faire, » reprit d'Artagnan, « que de se retirer dans son château. Au reste, mon cher Athos, parlez, demandez. Si une résidence vous est plus agréable que l'autre, je me fais fort de vous faire obtenir celle-là. » « Non, merci, » dit Athos, « rien ne peut m'être plus agréable, cher ami, que de retourner dans ma solitude, sous mes grands arbres, au bord de la Loire. Si Dieu est le suprême médecin des maux de l'âme, la nature est le souverain remède. » « Ainsi, monsieur, » continua Athos en se retournant vers Baisemeaux, « me voilà donc libre ?»« Oui, monsieur le comte, je le crois, je l'espère du moins, » dit le gouverneur en tournant et retournant les deux papiers, « à moins toutefois que monsieur d'Artagnan n'ait un troisième ordre. » « Non, cher monsieur de Baisemeaux, non, » dit le mousquetaire, « il faut vous en tenir au second et nous arrêter là. » « Ah, monsieur le comte, » dit Baisemeaux s'adressant à Athos, « vous ne savez pas ce que vous perdez. Je vous eusse mis à 30 livres comme les généraux. Que dis-je, à 50 livres comme les princes, et vous eussiez soupé tous les soirs comme vous avez soupé ce soir. » « Permettez-moi, monsieur, » dit Athos, « de préférer ma médiocrité. » Puis, se retournant vers d'Artagnan. « Partons, mon ami, » dit-il. « Partons, » dit d'Artagnan. « Est-ce que j'aurai cette joie, » demanda Athos, « de vous posséder pour compagnon, mon ami ?»« Jusqu'à la porte seulement, très cher, » répondit d'Artagnan. « Après quoi, je vous dirai ce que j'ai dit au roi, je suis de service. » « Et vous, mon cher Aramis, » dit Athos en souriant, « m'accompagnez-vous ? L'affaire est sur la route de Vannes. » Moi, mon ami, dit le prélat, j'ai rendez-vous ce soir à Paris et je ne saurais m'éloigner sans faire souffrir de graves intérêts. Alors, mon cher ami, dit Athos, permettez-moi que je vous embrasse et que je parte. Mon cher monsieur Baisemeaux, grand merci de votre bonne volonté et surtout de l'échantillon que vous m'avez donné de l'ordinaire de la Bastille. Et, après avoir embrassé Aramis, et serrer la main à M. de Baisemeaux, après avoir reçu les souhaits de bon voyage de tous deux, Athos partit avec d'Artagnan. Tandis que le dénouement de la scène du Palais-Royal s'accomplissait à la Bastille, disons ce qui se passait chez Athos et chez Bragelonne. Grimaud, comme nous l'avons vu, avait accompagné son maître à Paris. Comme nous l'avons dit, il avait assisté à la sortie d'Athos. Il avait vu d'Artagnan mordre ses moustaches. Il avait vu son maître monter en carrosse. Il avait interrogé l'une et l'autre physionomie, et il les connaissait toutes deux depuis assez longtemps pour avoir compris à travers le masque de leur impassibilité qu'il se passait de graves événements. Une fois Athos parti, il se mit à réfléchir. Alors, il se rappela l'étrange façon dont Athos lui avait dit adieu, l'embarras, imperceptible pour tout autre que pour lui, de se mettre aux idées si nettes, à la volonté si droite. Il savait qu'Athos n'avait rien emporté que ce qu'il avait sur lui, et cependant, il croyait voir qu'Athos ne partait pas pour une heure, pas même pour un jour. Il y avait une longue absence dans la façon dont Athos, en quittant Grimaud, avait prononcé le mot adieu. Tout cela lui revenait à l'esprit, avec tous ses sentiments d'affection profonde pour Athos, avec cette horreur du vide et de la solitude qui, toujours, occupe l'imagination des gens qui aiment. Tout cela, disons-nous, rendit l'honnête Grimaud fort triste et surtout fort inquiet. Sans se rendre compte de ce qu'il faisait depuis le départ de son maître, il errait par tout l'appartement, cherchant, pour ainsi dire, les traces de son maître, semblable en cela, tout ce qui est bon se ressemble, au chien qui n'a pas d'inquiétude sur son maître absent, mais qui a de l'ennui. Seulement, comme à l'instinct de l'animal, Grimaud joignait la raison de l'homme, Grimaud avait à la fois de l'ennui et de l'inquiétude. N'ayant trouvé aucun indice qui pût le guider, n'ayant rien vu ou rien découvert qui eût fixé ses doutes, Grimaud se mit à imaginer ce qui pouvait être arrivé. Or, l'imagination est la ressource, ou plutôt le supplice des bons cœurs. En effet, jamais il n'arrive qu'un bon cœur se représente son ami heureux ou allègre. Jamais le pigeon qui voyage n'inspire autre chose que la terreur au pigeon resté au logis. Grimaud passa donc de l'inquiétude à la terreur. Il récapitula tout ce qui s'était passé. La lettre de D'Artagnan à Athos, lettre à la suite de laquelle Athos avait paru si chagrin, puis la visite de Raoul à Athos, visite à la suite de laquelle Athos avait demandé ses ordres et son habit de cérémonie, puis cette entrevue avec le roi, entrevue à la suite de laquelle Athos était rentré si sombre, puis cette explication entre le père et le fils, explication à la suite de laquelle Athos avait si tristement embrassé Raoul, tandis que Raoul s'en allait si tristement chez lui. Enfin, l'arrivée de M. d'Artagnan, mordant sa moustache, arrivée à la suite de laquelle M. le comte de la Fère était monté en carrosse avec D'Artagnan. Tout cela composait un drame en 5 actes fort clair, surtout pour un analyste de la force de Grimaud. Et d'abord, Grimaud eut recours aux grands moyens. Il alla chercher dans le juste corps laissé par son maître la lettre de M. d'Artagnan. Cette lettre s'y trouvait encore, et voici ce qu'elle disait. « Cher ami, Raoul est venu me demander des renseignements sur la conduite de Mademoiselle de la Vallière durant le séjour de notre jeune ami à Londres. Moi, je suis un pauvre capitaine de mousquetaires dont les oreilles sont rebattues tout le jour des propos de caserne et de ruelle. Si j'avais dit à Raoul ce que je crois savoir, le pauvre garçon en fut mort. Mais moi qui suis au service du roi, je ne puis raconter les affaires du roi. Si le cœur vous en dit, marchez. La chose vous regarde plus que moi et presque autant que Raoul. » Grimaud s'arracha une demi-pincée de cheveux. Il eût mieux fait si sa chevelure eût été plus abondante. « Voilà, dit-il, le nœud de l'énigme. La jeune fille a fait des siennes. Ce qu'on dit d'elle et du roi est vrai. Notre jeune maître est trompé. Il doit le savoir. Monsieur le comte est allé trouver le roi et lui a dit son fait. Et puis, le roi a envoyé M. d'Artagnan pour arranger l'affaire. « Ah, mon Dieu !» continua Grimaud. « Monsieur le comte est rentré sans son épée. » Cette découverte fit monter la sueur au front du brave homme. Il ne s'arrêta pas plus longtemps à conjecturer, il enfonça son chapeau sur la tête et courut au logis de Raoul. Après la sortie de Louise, Raoul avait dompté sa douleur, sinon son amour, et forcé de regarder en avant, dans cette route périlleuse où l'entraînaient la folie et la rébellion, il avait vu du premier coup d'œil son père en butte à la résistance royale, puisqu'Athos s'était d'abord offert à cette résistance. En ce moment de lucidité toute sympathique, le malheureux jeune homme se rappela justement les signes mystérieux d'Athos, la visite inattendue de D'Artagnan et le résultat de tout ce conflit entre un prince et un sujet, apparut à ses yeux épouvantés. D'Artagnan en service, c'est-à-dire cloué à son poste, ne venait certes pas chez Athos pour le plaisir de voir Athos. Il venait pour lui dire quelque chose. Ce quelque chose, en d'aussi pénibles conjonctures, était un malheur ou un danger. Raoul frémit d'avoir été égoïste, d'avoir oublié son père pour son amour, d'avoir, en un mot, cherché la rêverie ou la jouissance du désespoir, alors qu'il s'agissait peut-être de repousser l'attaque imminente dirigée contre Athos. Ce sentiment le fit bondir. Il saignit son épée et courut d'abord à la demeure de son père. En chemin, il se heurta contre Grimaud, qui, parti du pôle opposé, s'élançait avec la même ardeur à la recherche de la vérité. Ces deux hommes s'étreignirent l'un et l'autre. Ils en étaient l'un et l'autre au même point de la parabole décrite par leur imagination. « Grimaud ! » s'écria Raoul. « Monsieur Raoul ! » s'écria Grimaud. « Monsieur le comte va bien ? Tu l'as vu ? Non, où est-il ? Je le cherche. Et monsieur d'Artagnan ? Sorti avec lui. Quand ? 10 minutes après votre départ. Comment sont-ils sortis ? En carrosse. Où vont-ils ? Je ne sais. Mon père a pris de l'argent ? Non. Une épée ? Non. Grimaud ! Monsieur Raoul ? J'ai idée que monsieur d'Artagnan venait pour... Pour arrêter monsieur le comte, n'est-ce pas ? Oui, Grimaud. Je l'aurais juré. Quel chemin ont-ils pris ? Le chemin des quais. La Bastille ? Ah, mon Dieu, oui ! Vite, courons ! Oui, courons ! Mais où cela ? Dit soudain Raoul avec accablement. Passons chez monsieur d'Artagnan, nous saurons peut-être quelque chose. Non, si l'on s'est caché de moi chez mon père, on s'en cachera partout. Allons chez... Oh, mon Dieu, mais je suis fou aujourd'hui, mon bon Grimaud. Quoi donc ? J'ai oublié monsieur du Vallon. Monsieur Porthos ? Qui m'attend toujours ? Hélas, je te le disais, je suis fou. Qui vous attend ? Où cela ? Aux Minimes de Vincennes. Ah, mon Dieu ! Heureusement, c'est du côté de la Bastille. Allons, vite ! Monsieur, je vais faire seller les chevaux. Oui, mon ami, va !